Bonjour, bienvenue sur Fréquence Mistral pour un nouveau numéro de 100% foot, même en trêve internationale, on est là, toujours fidèle au poste pour évoquer toute l'actualité football de la région avec aujourd'hui un programme copieux et chargé avec du foot féminin, de la nationale, de la Ligue 1, de la Champions League. Tout ça avec les filles de l'Olympique de Marseille, les Marseillaises, le Sporting Club d'Aubagne-Herbelle et l'Olympique de Marseille pour l'actu Ligue 1 et Champions League avec la deuxième journée de la Champions League qui s'est déroulée la semaine dernière.
Ça fait plaisir d'entendre, oui.
Voilà, tout ça en compagnie de mes deux acolytes, toujours fidèles au poste, j'ai nommé Patrick et Franck. Bonjour les gars.
Bonjour,
bonjour
Thierry,
bonjour
à
Patrick.
Toutes et à tous.
Voilà. On va commencer cette émission avec le foot féminin et premier succès de la saison sur cette quatrième journée de l'Arkema Premier League pour les Marseillaises en terre stéphanoise du côté de Geoffroy Guichard.
Très belle victoire.
4-0,
ouais.
Voilà, avec un doublé de Melissa Herrera, la joueuse costaricienne, et la joueuse vedette Mathilde Bourdieu, qui a réalisé un doublé, voilà, deux doublés pour cette belle victoire en terre forésienne pour les Marseillaises.
Voilà. Oui. Une joueuse de grande qualité.
Voilà, Marseillaises qui FC, voilà. Ont enfin un entraîneur titulaire.
Voilà. Oui. Après le départ de Goncalves, voilà, l'actualité toute fraîche, c'est la nomination de Corinne Diacre.
Ah oui.
Hier, voilà, qui est arrivée à Marseille, oui. Et qui a été présentée à la presse et ainsi qu'aux joueuses. Voilà. Elle vient avec beaucoup d'ambition, elle qui était en poste au sein de la FIFA, voilà, après quitté son poste de sélectionneuse de manière un peu chaotique avec
sous la pression, la sélection. Sans le souligner d'une certaine équipe, je dirais, voilà, de Lyon.
Elle était en conflit, voilà, avec certaines Lyonnaises, parce que. Elle a essayé, bon, après elle a sûrement fait des erreurs, mais enfin elle a essayé de choisir et de lancer des jeunes, et ça prenait la place d'anciennes, et il y avait un clan qui a eu sa peau. Mais c'est une bonne chose pour l'OM, parce que c'est une entraîneur expérimentée. On rappelle à nos auditeurs qu'elle a entraîné des masculins. Elle a entraîné en Ligue 2 à Clermont.
Oui, c'est bien ça, Patrick.
Voilà, équipe qu'elle a construite et qu'elle a amenée. C'est son successeur, Pascal Gastien, ancien joueur de l'OM il y a très longtemps.
Ouais, au début des années 80, sous l'ère Bernard Tapie. Je m'en rappelle très bien.
Voilà, milieu de terrain défensif, accrocheur. Ouais. Et donc, c'est lui qui a fait monter l'équipe l'année d'après, mais elle a réussi d'excellents résultats en faisant en manageant une équipe de mecs, et elle a quand même eu l'équipe de France, et elle a quand même montré de sacrées qualités, une certaine grosse expérience. Et pour les filles sur le banc, d'avoir quelqu'un de cette envergure, c'est un excellent choix.
Surtout qu'on rappelle pour nos auditeurs que cette équipe des Marseillaises est une équipe promue au sein de l'Arkema Première Ligue, le championnat d'élite. Elles viennent tout juste de remonter. C'est vrai que là, ce week-end, on jouait la quatrième journée.
Voilà, pour les Olympiennes, il est évident qu'après nos premières défaites, première journée face à Lyon, justement au Groupama Stadium, très difficile de rivaliser avec cette équipe, perdu 3-1 ce match-là. Deuxième journée, on perd à domicile face au WAC. La troisième journée, une confrontation, les Aubagnais ont eu la même confrontation avec les masculins face à Fleury le samedi 27 pour la troisième journée, et l'OM, les Olympiennes ont également échoué 2-0, et une superbe journée face à la AS Saint-Étienne, pour la quatrième. Donc, cette dernière journée, l'OM l'a emporté 4-0.
Et on rappelle qu'en Ligue 1 Arkéa féminine, il y a une sacrée palier entre la Ligue 1 et la Ligue 2, et que les équipes qui montent, Saint-Étienne était montée la saison d'avant.
Et
d'ailleurs.
Elle se retrouve en fâcheuse posture.
Et tu te retrouves en difficulté.
Et là quand on regarde un peu les résultats, on voit quand même qu'il y a des équipes, qui jouent le haut tableau, qui se retrouvent en difficulté. Notamment, j'ai vu là ce week-end, il y a le Paris FC qui s'est incliné.
Qui est une équipe qui joue la
Ligue des Champions, exactement.
J'allais y venir. Qui a donné de grosses corrections au Paris Saint-Germain sur la semaine précédente.
Voilà, c'est donc très compliqué. Et c'est en ça que Corinne Diacre, avec son expérience et elle doit quand même avoir une certaine aura auprès des joueuses quand même.
C'est évident.
C'est une ancienne internationale française qui a eu je ne sais plus combien de dizaines de sélections.
Il manque plus qu'à le démontrer.
Mais elle a été sélectionneuse de la France, elle a été entraîneur en Ligue 2.
Elle a entraîné aussi du côté de Soyaux, l'équipe féminine. Très grosse expérience pour Corinne Diacre.
Donc
Corinne
on risque Diacre, fort de la retrouver comme coach à partir de la cinquième journée, donc la prochaine.
Ce sera un déplacement du côté de Charletti en région parisienne pour défier le Paris FC. L'équipe de championnat. Comme le disait si bien Patrick.
C'est un gros morceau, mais
Avant le prochain rendez-vous en championnat, il y aura quand même un rendez-vous en coupe.
La continuation de la phase de poule de la Coupe de la Ligue pour les féminines.
Un déplacement dans l'Aveyron du côté de Rodez qui est prévu samedi prochain.
Ça sera l'intermède avant le retour au championnat, probablement avec Bruno Diacre.
On peut dire que sur les objectifs de Diacre, ça sera le maintien. Assurer le maintien plus ou moins tranquille et construire pour l'avenir, parce que effectivement là il y a beaucoup d'équipes qui ont fait l'aller-retour
On ne peut pas sauter les étapes intermédiaires. Voilà.
Et c'est vrai, comme tu le disais si bien, Patrick, il y a un gros fossé entre l'élite, l'Arkema Première Ligue et la D2, donc championnat dans lequel évoluait l'Olympique de Marseille la saison dernière.
De combler tout cela.
Et c'est un peu comme on voit aussi chez les garçons à un degré moindre, mais qu'on commence à voir. C'est-à-dire qu'il y a un gros gap entre la première et la deuxième. Et quand tu montes, la première saison est très difficile. Et on le voit cette année avec Metz. On va en reparler un
jour. Oui, justement, les joueurs de Roberto De Zerbi qui se déplaçaient en Lorraine samedi après-midi pour défier le football club de Metz le compte de cette septième journée de Ligue 1. On va clore ce chapitre féminin et juste rappeler pour nos auditeurs qu'avec cette belle victoire du côté de Geoffroy Guichard, donc les Marseillaises occupent la 9e place. Du classement.
Ce qui vaut à une première victoire de nos Olympiennes. Elles sont avec 3 points, elles se retrouvent justement 9e, ce qui est pas mal comme situation intermédiaire.
Voilà. Donc, prochain rendez-vous et première sur le banc des Marseillaises pour Corinne Diacre, donc du côté de Rodez samedi prochain en Coupe de la Ligue. On va passer au championnat de national avec le Sporting Club de Aubagne-Herbel qui jouait pour le compte de la 9e journée au stade de la de Tassigny à domicile face à Dijon. Et pour les joueurs de Gabriel Santos, ça n'a pas été une victoire, mais un match nul, un but partout.
Il est vrai que Aubagne-Herbel n'essuie guère de défaite, peut-être en début de championnat, et depuis lors c'est ou victoire ou match nul.
Après il jouait Dijon qui est un des candidats à la montée. C'est un ancien club de
le club de Ligue 1 de Côte d'Or qui occupe la 3e place.
C'est un habitué de la Ligue 2, c'est un ancien club qui a joué plusieurs saisons en Ligue 1. Avec Sochaux, c'est les gros, et Caen, c'est les gros qui veulent remonter.
Sochaux étant le prochain adversaire d'Aubagne-Herbel.
Donc
un déplacement du côté du stade Bonal qui est prévu pour le 17 octobre. Après la trêve internationale pour les Aubagnais.
Et disons qu'un match nul chez toi contre Dijon, qui est un club qui joue la montée, qui est un club pro, qui a eu le statut pro pendant longtemps et qui a toujours...
Le Dijon... Club.
Donc c'est quand même un bon résultat. Moi, j'ai eu la chance de regarder le match chez nos collègues de BFM.
De FFM Marseille.
N'ayez pas peur de commentaires. Moi, je l'ai trouvé relativement insipide.
Oui. Le match n'était pas... Mais c'est vrai que...
J'ai regardé un petit peu. Je ne vais pas me le cacher. Par bribes. Mais c'est vrai que ce n'était pas un spectacle extraordinaire. Mais... On a vu des matchs de meilleure qualité sur ce championnat national.
De beaucoup mieux.
L'impression que j'ai, c'est que les deux équipes se craignait beaucoup. Aubagne était dans l'idée que un match nul ne serait pas un mauvais résultat et Dijon n'a pas voulu risquer une défaite. Ça a été très fermé comme match. pour ceux qui ont vu le match PSG, Lille-PSG dimanche soir, le dernier match de la journée.
Le match qui a clôturé la Ligue 1.
Un partout, c'était un peu le même style. C'est-à-dire tout le monde se méfie, personne n'ose trop attaquer.
Absolument.
Et voilà. Et
analogie au niveau du score et ainsi que dans le déroulement de cette rencontre.
Et c'est vrai que ça fait insipide parce que quand trois jours avant, tu as vu des matchs de Ligue des Champions.
C'est vrai que ça change quand même du spectacle.
Voilà, c'est pas exactement le même niveau.
On peut dire ça comme cela. Ouais.
Je regardais hier un match de championnat du monde du Vel. Sur la chaîne L'Équipe, ils montrent les matchs du championnat du monde
U20. Le championnat U20 qui se déroule actuellement en Amérique du Sud, du côté du Chili.
Au Chili, exactement.
Et les joueurs de Bernard Diomed, d'ailleurs, qui sont toujours en lice.
Sont qualifiés, qui ont intérêt à améliorer finale, leur jeu s'ils veulent aller plus loin. Parce que
face au Canac, l'équipe de France...
Il faut dire à la décharge de Bernard Diomed, c'est qu'il a eu une trentaine de
Il y a eu beaucoup de défections de la part des clubs. On sait qu'il y a beaucoup de ces jeunes qui évoluent dans les clubs professionnels et malheureusement comme ce n'était pas une date FIFA, les clubs ont décidé de conserver leurs jeunes internationaux dans les clubs et donc difficile pour composer cette sélection.
Voilà, à commencer par l'OM puisque Bacola et Robinho Vaz ne sont pas partis à la Coupe.
On va en parler justement puisqu'il y a, il y a des matchs amicaux pour l'équipe de France U20 et Daryl Bacola a été sélectionné et concerné durant cette trêve internationale.
Voilà, et donc c'est sûr qu'ils n'y sont pas. Il y a plusieurs joueurs du PSG, il y a des joueurs qui jouent régulièrement en pro. Et là,
il y a beaucoup de jeunes qui évoluent équipes évoluant en Ligue 1.
Exactement. Et donc, il lui manque énormément de monde.
Très, très difficile.
Tiens, on peut faire une petite parenthèse sur nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille, international suisse, qui joue avec. Les moins de 20 ans suisses, Max Corbon, qui a signé son premier contrat professionnel.
Oui, il a été présenté avec Pablo Longoria cette semaine.
Et c'est un jeune de la réserve qui vient de signer son premier contrat pro et que De Zerbi avait amené au stage de préparation aux Pays-Bas cet été au mois de juillet.
Il a intégré au groupe professionnel.
Il a intégré au groupe. C'est un jeune, il faudra voir ce qu'il donne après parce qu'il y a quand même un joli gap entre la réserve et la Ligue 1 et la Ligue des Champions.
Nous disposons d'une très belle jeunesse.
On souligne quand même le bon travail qui est fait au sein de la formation marseillaise par les dirigeants et tout le staff et le board olympien. Voilà. Pour refermer encore ce chapitre de national, donc... Pour Aubagne, donc le prochain rendez-vous, ce sera juste après la trêve internationale, donc du côté de la région Franche-Comté, avec un déplacement au Stade Bonal face au Sochaux FC. Voilà.
Bon, et le classement est fort intéressant d'Aubagne.
Septième avec 13 points.
Voilà. Il faut tenir compte qu'au Sochaux est sixième avec 13 points, ainsi que quand cinquième, 13 points, on est côte à côte, même avec le quatrième et le troisième qui sont à 14 points. Donc là, ils sont dans le bain comme il se doit et il faut maintenir ce rythme pour Aubagne.
Un championnat... assez serré, ce championnat de national. On voit que l'écart est assez serré.
Une équipe qui se détache, bien évidemment.
Voilà, entre les équipes du haut tableau et celles du milieu. Voilà, on espère que la belle série continuera et se poursuivra pour les joueurs du Sporting Club d'Aubagne-Herbel. Voilà, on va enchaîner avec l'Olympique de Marseille. D'abord, un petit retour, un petit focus sur la Champions League et cette belle victoire au Stade Vélodrome obtenue face à l'Ajax Amsterdam mardi dernier. 4-0 pour les joueurs de Roberto De Zerbi à l'occasion de cette deuxième journée de Ligue des Champions.
Je vois des sourires autour de moi.
Voilà. Un petit mot sur cette belle victoire après la défaite à Madrid il y a trois semaines. La belle réaction pour les joueurs de Zerbi.
Et ce qui est surtout intéressant, enfin qui a été très positif, moi je ne suis pas d'accord avec les commentaires que j'ai entendus dans les médias nationaux, où l'Ajax sont bidons, l'Ajax sont pas bidons. Tu as eu deux occasions dans les 20 premières minutes, tu as mis deux buts. Voilà.
On a su optimiser justement.
Voilà, c'est-à-dire que ce qui fait la différence, c'est que tes deux.
Après, il y a eu des choix forts de la part de Roberto De Zerbi par rapport à la compo.
Comment nous sommes par cela, oui.
Voilà, mais... ben, je voulais vous faire réagir justement une heure avant le coup d'envoi quand on apprend la compo et la titularisation d'Arthur Vermeeren à la place de Pierre-Emile Højbjerg.
Ça pouvait
la titularisation de. Allez, on reprend. C'est les aléas du direct qui nous ont contraints d'interrompre l'émission quelques minutes. Mais
toujours présent.
Voilà, tout est rentré dans l'ordre, donc on est prêt à reprendre. Donc justement, on était en train d'évoquer le match de Ligue des Champions et le match de l'Ajax de mardi dernier. Donc voilà, cette belle victoire à l'occasion de la deuxième
avec
journée.
Avec une composition inédite, comme tu disais.
Voilà, justement, j'étais en train d'évoquer la compo de Roberto De Zerbi lorsqu'on a appris une heure avant le coup d'envoi la titularisation de Arthur Vermeeren à la place de l'international espoir belge à la place de Pierre-Emile Højbjerg, le Danois.
Rien que ça.
La titularisation aussi de Bilal Nadjer.
Un milieu terrain renouvelé sur ce match-là, c'était un peu étonnant.
Surprenant, mais en fait, De Zerbi avait expliqué qu'il voulait un peu faire tourner pour donner du temps de jeu à tout le monde. Et il a dit, alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est... Moi, je pense que c'est vrai quand même. Hein, ou est-ce que c'est de la com que Højbjerg, il avait enchaîné 3 matchs. Il avait Paris, Madrid et Lorient.
Il y avait eu Strasbourg aussi, avant.
Ce n'est pas
faux.
Donc,
et que donc, il fallait un peu reposer les gars.
Bah, c'est
vrai que c'était une grosse surprise parce que tu joues l'Ajax quand même.
Ouais. Après, on sait que c'était la dernière semaine avant une trêve internationale. Et puis revenir au cas de Pierre-Emile Højbjerg, il est concerné par son équipe nationale durant cette trêve avec Mato Raile pour des matchs de qualification de la Coupe du Monde avec le Danemark. Donc, le fait de voir Roberto De Zerbi le faire souffler à l'occasion de ce match, c'était peut-être...
C'est tout à fait compréhensible, dans un certain sens. Ouais.
Et ça nous a permis de découvrir Vermeeren, qu'on avait très peu vu.
Et
d'être, en tout cas, moi, j'ai été complètement bluffé par ce joueur.
Plus qu'agréablement surpris.
Gros génial, travailleur, gros boulot, et son entente avec Aurélie a été excellente. Deux gros travailleurs.
Un gros abattage pour le jeune belge. Sur ce match-là.
Une vision de jeu, un bel abattage.
Et Nadir, il a été un petit peu en dessous par rapport aux deux, parce que c'est un joueur fin, mais il a peut-être pas le physique de déménageur des deux qui sont qui sonnent des box-to-box, comme on dit en Angleterre, c'est-à-dire des costauds.
Le physique.
Qui joue beaucoup dessus. Mais il est technique et il a fait son match. Hein, il n'a rien à dire. Il a joué qu'une mi-temps, mais il a fait son match. Mais par contre, je disais donc que je pense que l'Ajax, on les a pris à la gorge. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le pressing haut que faisaient Aurélie et Vermeeren qui allaient chercher dans le camp de l'Ajax, qui a harcelé les mecs. Et quand tu regardes le second but, c'est une récupération à 30 mètres. C'est Vermeeren qui récupère un ballon.
Je pense que ça a dû être les consignes délivrées par Roberto De Zerbi à ses joueurs avant la rencontre.
Parce que
a dû bien analyser cette équipe néerlandaise qui s'est inclinée à domicile à Johan Cruyff Arena lors de la première journée face à l'Inter Milan 2-1.
Et d'ailleurs, dans les reproches que j'ai lus sur Internet, c'était un ancien international hollandais. Je ne sais plus quel était le nom de ce joueur. Je ne sais pas si c'est pas Snyder.
Oui, c'est Wesley Snyder qui a désingué Johnny Heitinga, l'actuel coach de l'Ajax. C'est la façon de jouer.
En lui reprochant d'avoir joué d'une manière trop naïve.
Ouais.
Quand tu vois que les mecs te chassent, il faut mettre des grands ballons, il faut dégager. Et ils ont voulu C'est l'école de l'Ajax. Hein.
Ben,
ils ont voulu repartir proprement. Quand il y a une équipe dans la moyenne d'âge, il y avait beaucoup de jeunes de 19-20 ans.
Mais je pense que peut-être ça a été contraint par rapport à l'absence de Wout Weghorst, grand attaquant néerlandais revenait cet été du côté du championnat néerlandais.
De changer des relances. Ils ont joué un petit peu comme nous. Finalement.
Voilà, c'est-à-dire que... Ils ont fait un choix, ce que disait Wesley Schneider.
Ouais. C'est l'ancien joueur de l'OGC Nice.
Voilà, à nos auditeurs,
qui a fait un bref passage du côté de la Ligue 1 et de la Côte d'Azur sous les couleurs de l'OGC Nice.
C'est un joueur qui a failli être Ballon d'Or. Il a été second du Ballon d'Or au début des années 2000.
Mais pour critiquer,
lorsqu'il jouait au Real, il me semble, ou à l'Inter de Milan.
Ou un ou l'autre, au Real ou à l'Inter.
J'ai un souvenir vague.
C'est un sacré joueur de ballon, et il avait fait deuxième au Ballon d'Or, donc c'est pas un... Et il disait, oui, l'absence de Weghorst, comme disait Franck, c'est qu'il fait 2m3, Weghorst. Donc c'est la grande tour qui tient des grands ballons devant.
Ce qui n'empêche pas de relancer un peu...
Mais là, ils ont voulu sortir à la Johan Cruyff, quoi. Hein, c'est l'Ajax.
Voilà.
C'est-à-dire tic-tac-tic en triangle et tout. Et tu les as pressés tellement haut avec des garçons, Vermeeren et Aurélie, très physiques. Et
bravo à eux.
Bravo à eux, effectivement. Et tu as récupéré les ballons et tu les as étouffés.
On a su les utiliser de la meilleure des manières, ces ballons récupérés.
Voilà. Voilà, et donc tu es arrivé à les exploser complet. Et après 3-0 à la mi-temps, le match
était plié. Il y a eu ce quatrième but qui est arrivé à l'entame de la seconde période de la part de Pierre-Emerick Aubameyang pour sceller la victoire de manière exceptionnelle.
Mais c'est vrai que le
match était déjà
joué
à la mi-temps.
Et
3-0
but,
à la 45e.
Aubameyang, c'est à la 51e, qui met sur une passe de Pekchao, d'ailleurs.
52e.
Il met le quatrième but, après tu as gardé le ballon, tu as fait circuler, tu as pu faire tourner, sans faire 5 remplacements, enfin 4, puisque malheureusement on perd Medina.
Il y a eu la grave blessure de Facundo Medina, qui sera absent 2 mois.
Un coup dur, parce que
c'est énormément difficile à gérer comme situation.
C'est vrai qu'en plus, déjà, il avait été absent pendant quelques semaines en ce début de saison. Mais c'est vrai que...
C'est un coup à la même cheville qui avait été blessé.
Il y a beaucoup de poids, ceux qui s'abattent sur l'international argentin recruté cet été en provenance du Racing Club de Lens.
C'est un coup dur, parce que il peut à la fois jouer arrière-gauche dans une défense à 4.
Et dans l'axe,
il offre plusieurs possibilités à Roberto De Zerbi au niveau du schéma tactique.
Comme contre l'Ajax, où en fait il y avait une défense à 3, Pavard, Aguerre, Medina.
Ouais.
Et donc que tu as modifié un peu après. Hein. Mais donc, et il te permet de jouer dans les deux options. Mmh. Et il est fiable, c'est un combattant. Et c'est embêtant, parce que ça t'enlève une optique. Heureusement qu'à gauche, on a Emerson qui fait une très bonne
Emerson Palmieri, l'italo-brésilien,
qui fait de
très bonnes prestations.
Très costaud.
On l'avait connu il y a quelques années du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est un joueur qui a une très grosse expérience.
Il a évolué depuis lors.
Champion d'Europe avec l'Italie en 2021, vainqueur de la Champions League avec Chelsea.
Et de l'Europa League aussi.
Et de l'Europa League avec West Ham.
On peut insister sur cette base défensive plus que solide.
C'est très solide. Murillo toujours fait son boulot. Quand tu mets Wea en couloir droit, il fait ses matchs. Il travaille beaucoup. Donc c'est costaud.
Et qui ne rechigne pas à l'effort, justement, défensif.
L'absence de Medina est gênante, parce qu'elle empêche un turnover. En tournant. Ouais. Mais bon.
Et là, pour la Sudac compétition, on a dit que peut-être le fait d'avoir conservé Ulysse Garcia, ça offrait peut-être la possibilité de le réintégrer, de l'inscrire dans la liste UEFA pour cette compétition.
La demande a été faite, et normalement elle doit être acceptée, puisque le règlement de l'UEFA prévoit, si tu as un joueur de ta liste qui est blessé, 2 mois ou plus, tu peux le remplacer par un gars qui n'était pas, qui n'était pas dans la liste.
Donc, côté gauche, on n'a pas l'embarras du choix.
Oui, oui, oui.
On sait qu'il y avait Paul Lirola, Neil Mopé et Ulysse Garcia qui ne figuraient pas dans la liste UEFA.
Donc, tu vas pouvoir intégrer Ulysse Garcia, qui d'ailleurs était sur le banc à Metz samedi dernier. Donc c'est un mec qui s'entraîne avec l'équipe, qui n'est pas exclu.
C'est vrai que bon, il n'a pas joué depuis le début de la saison, mais il fait toujours partie du groupe.
C'est important de toujours les mobiliser, qu'ils se sentent concernés.
Et en plus, c'est un gars, d'après ce qu'on sait, qui a une très bonne mentalité, qui ne fait pas de vagues, qui ne fait pas d'histoire. Et qui donc.
Moi, j'ai entendu qu'il y avait le FC Nantes qui s'intéressait à lui.
Oui, mais.
Donc,
il fallait payer un transfert et ils n'ont pas voulu.
C'est vrai que Nantes, ils ont quelques difficultés financières qui sont à l'origine de beaucoup de clubs également.
Voilà, oui. Mais bon, à la limite, tant mieux pour nous parce qu'on a un remplaçant.
Oui.
C'est quand même un joueur qui l'année passée avait fait ses matchs en Ligue 1 quand il avait joué. Il avait été dans le groupe et il n'avait pas. Bon, il n'est pas extraordinaire, il est moins bon que Emerson, c'est sûr, et il est moins bon défenseur que Medina, mais c'est un joueur solide, expérimenté, qui a une bonne mentalité, qui peut nous dépanner. Tu fais des matchs, tu es amené, on va recevoir le Havre, des trucs comme ça, c'est un gars qui peut rentrer.
Pour à l'occasion de la prochaine journée de Ligue 1.
Voilà, la prochaine journée après la trêve, on reçoit le Havre samedi au vélo, le samedi pas
le samedi 18 dans une dizaine de jours.
Voilà, au Vélodrome, et tu peux, c'est un mec que tu peux faire rentrer, qui peut te permettre de faire souffler un titulaire, donc c'est pas dramatique.
Mais l'absence de Medina risque justement d'être préjudiciable parce que 2 mois, ça risque d'être un peu court avant de retrouver le rythme.
Et puis ça veut dire, voilà, tu vas avoir du mal à le remettre dans le bain. 2 mois, ça fait long.
Et pas le reblesser après.
Mais bon, pour l'instant, on fait avec.
Ouais, ça fait jusqu'à fin novembre, début décembre. Après, on sait qu'il y aura la Coupe d'Afrique des Nations aussi qui va démarrer la perte de quelques éléments importants, notamment Naïef Aguerd. Mais bon, sur le plan défensif, il y a que Naïef Aguerd avec le Maroc qui sera concerné par cette compétition.
C'est devant qu'on sera peut-être un peu plus gêné, puisque normalement, il y a Aubameyang, il y a Amine Gouiri et il y a Ahmed Junior Traoré.
Avec la Côte d'Ivoire qui est actuellement blessé. Lui aussi est du côté de l'infirmerie. Donc,
on n'a pas revu depuis ces excellents débuts.
Et il y a des risques
contre le FC Lorient.
Que Kélian Abdallah soit dans l'équipe des Comores.
Des Comores.
Donc ça pourrait faire.
Donc finalement, je fais une petite parenthèse, je dirais humoristique. Le seul qui n'est pas concerné, c'est l'international français Pavard, que franchement sélectionné arrivé à l'OM.
Voilà. Oui, pas de convocation de la part de Didier Deschamps pour Benjamin Pavard à l'occasion de cette trêve du mois d'octobre, avec le retour de William Saliba qui était blessé et absent le mois dernier. Donc, pas de rendez-vous face à l'Azerbaïdjan et l'Islande pour Benjamin Pavard, qui restera à Marseille durant cette trêve pour peaufiner sa condition. Lui, qui a fait des débuts tonitruants sous le maillot olympien.
Très bon début. Après, pour nos auditeurs, Didier Deschamps, il connaît Pavard. Il sait à quoi s'en tenir avec lui.
On sait que ça fait un petit moment qu'il est dans le groupe France.
Il est champion du monde.
C'est pas une débutante.
Il n'a pas besoin de l'appeler pour le voir.
Il sait ce qu'il vaut. Et je pense que le staff de l'équipe de France doit scruter de près ses performances sous le maillot marseillais, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1.
Et moi, je suis persuadé que s'il acceptait de faire la doublure de Koundé comme arrière droit, il serait à Clairefontaine. Seulement, il dit qu'il veut jouer qu'Axial.
C'est vrai qu'après, avec le nouveau schéma tactique mis en place par Roberto De Zerbi,
ça ne l'a pas empêché de pallier sur le côté droit.
Mais tu as une équipe avec Emerson qui est très bonne techniquement et qui est un piston plus qu'un arrière latéral.
Complémentaire.
Il est champion d'Europe avec l'Italie, mais l'Italie joue une défense à 3 avec des pistons. C'était le remplaçant de Di Marco en équipe d'Italie. Ouais. Et donc, tu as tendance, quand tu as le ballon...
Après, c'est vrai que lorsqu'il a été champion d'Europe, c'était l'Italie de Roberto Mancini. Oui, et donc, on voit qu'aujourd'hui, sous l'ère Gattuso, la nationale, c'est plus tout à fait le même chez Matacic. Donc, c'est difficile de faire la comparaison.
Mancini, il avait monté un groupe qui était un commando et il était entièrement dedans. Et là, quand tu joues comme tu en as joué contre Paris ou contre l'Ajax, en fait, Pavard n'est pas arrière droit, il est stoppeur droit.
Oui. Mm.
Et tu as donc, quand tu as le ballon, ce que l'année passée De Zerbi faisait avec Quentin Merlin, le mec, il devenait un milieu de terrain supplémentaire et toi, tu glissais à trois défenseurs. C'était Murillo qui passait d'arrière droit à stoppeur droit. La saison dernière, et là c'est Pavard. Donc il ne joue pas vraiment arrière droit, au sens où il monte assez peu, même si à Strasbourg il est monté, il a fait une excellente.
Après, il a ce côté polyvalent qui lui permet de jouer à plusieurs postes au sein de la défense.
Totalement, et en même temps, pour revenir ou être en garde pour jouer les hors-jeux éventuels, c'est lui qui s'en occupe avec la garde. Généralement, Balerdi est un peu mis de côté dans ce registre-là.
Voilà, c'est celui qui couvre et qui maintient la ligne de défense. Et je pense que Deschamps le connaît, il sait que s'il en a besoin, il est là. Mmh. Il prend Lucas Hernandez, c'est un gaucher, et qu'il a besoin de gaucher, de vrai gaucher. Mais je pense que s'il acceptait d'être le remplaçant de Koundé en équipe de France, il n'y aurait pas mal au Gusto, ça serait lui. Mmh. Oui. Mais bon, ça te permet de tester Gusto dans un match de très bon niveau et de savoir qui tu vas amener la Coupe du Monde.
Bon, après, il y a encore 8 mois avant le début de la Coupe du Monde. Donc,
il a l'embarras du choix.
Je pense que pour Benjamin Pavard, il n'y a pas lieu de s'alarmer. S'il veut encore faire partie du groupe qui s'envolera pour les États-Unis, le Mexique et le Canada au mois de juin prochain, on sait ce qu'il lui restera à faire avec l'OM.
De réaliser très belles choses avec l'OM, comme tu viens de le souligner.
Et donc, il a beaucoup apporté. Moi, j'ai beaucoup aimé. On l'avait dit sur cette même antenne après le match contre Paris. J'ai trouvé que lui et Aguerd ont énormément mené dans la sérénité défensive.
Ouais. C'est vrai que malheureusement, c'est ce qui faisait défaut cette défense olympienne ces dernières semaines et notamment la saison dernière. Hein.
Voilà, et du coup, quand tu as Pavard et Aguerd et qui amènent de la sécurité, ils ont 29 ans tous les deux, ils ont beaucoup d'expérience, tu te rends compte que Balerdi fait moins d'erreurs.
Ouais. c'est un plus et c'est rassurant pour le capitaine argentin de l'Olympique de Marseille.
C'est plus que de la sécurité, on aspire à la sérénité.
Voilà.
Avec la réunion de ces joueurs-là.
Et moi, j'ai vu le match, quand tu étais en tribune... Moi, comme je l'ai déjà dit, je suis au virage sud. Toute la deuxième mi-temps, tu jouais sur tes buts.
Oui.
Et la défense respirait la sérénité. Mmh. Et il n'y avait pas de panique. Y a pas eu... Et ce que moi, j'apprécie, c'est que quand il y a un peu le feu, un grand coup de botte loin devant, ça dégage. Voilà. C'est pas.
Voilà, sans déroger.
On n'essaie pas de dribbler dans la surface et de faire des rondes de jambes. Voilà. Il y a un moment où il faut savoir dégager fort. Et là-dessus, les deux, avec leur expérience d'Italie pour Pavard et d'Angleterre, mais surtout de l'équipe du Maroc pour Aguerd, les mecs, ils ne s'emmerdent pas. Ils savent quand il faut faire une belle passe, une belle relance, et quand il faut dégager parce qu'il y a le feu. Quoi.
Et même du côté de l'Espagne, puisqu'il s'est très bien relancé, du côté du Pays Basque et de San Sébastien, avec la Sociedad de l'an passé pour Naïef Aguerd, notre international marocain. Qui partira à l'occasion de cette trêve.
Ouais, et qui partira à la Cannes.
C'est vrai, justement, ça sera une grosse absence pour Roberto De Zerbi une absence qui sera peut-être difficile à compenser. Durant ce temps. Et en plus, quand on sait que les joueurs de Walid Regragui font partie des principaux favoris en tant que pays hôte de cette compétition.
Ils sont grands favoris. Et en plus, ça tombe mal parce que le match de Ligue des Champions contre Liverpool, la CAN sera sur la fin.
Ça se chevauche
sur 2-3 jours.
Ouais, c'est vrai que cet avant-dernier match avec la réception des Reds de Liverpool au Vélodrome, le mercredi 21 janvier.
On a déjà hâte.
Et voilà. Et donc... Il risque, il sera. Enfin, je pense, vu le statut et la qualité de l'équipe du Maroc, qu'il ne sera pas là. Il n'en reste qu'à espérer que Bilal Nadir ne soit pas lui aussi appelé, parce que là, ça serait
il reste avec l'équipe espoir.
Il est espoir, pour l'instant, il est espoir. Mais bon, il est aux portes de l'équipe A. Ouais. Espérons qu'il n'y ait pas de blessés au Maroc, parce que si on perdait en plus Bilal... Ouais. C'est un joueur qui a fait un match correct contre l'Ajax. Et il
est toujours impliqué, toujours à donner le meilleur de soi.
Il travaille, il se défonce, il essaie de créer, il fait de bonnes choses. Et toute l'équipe a été bonne. Moi, je voudrais quand même souligner Pek Chao.
Ah,
parce
que
Edouard Pachao, il y avait beaucoup de doutes et on voit que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de critiques qui ont été mises de la part des supporters sur les réseaux sociaux concernant son rendement. Voilà. Et c'est surtout son prix, la recrue la plus chère de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Et quand on a vu le rendement, mais bon, là, une belle semaine avec ce doublé face à une équipe d'Eredivisie, l'Ajax, au bon souvenir de Feyenoord.
On a appris à l'occasion que c'était son souffre-douleur préféré en championnat des Pays-Bas avec Feyenoord. C'était l'Ajax. Et ce qui fait d'ailleurs qu'il s'en méfiait beaucoup. Et on en parlait.
Je pense qu'il avait à cœur de briller lors de cette confrontation.
Avec son papa dans les tribunes.
On en parlait la semaine dernière sur cette même antenne en disant que les gens semblaient oublier les critiques. Que le mec, il est arrivé blessé, qu'il n'a pas fait de préparation.
Il a eu aucune préparation. Donc,
Qu'il a eu 2 mois sur une blessure musculaire, qu'il n'avait plus joué depuis la fin mai avec Feyenoord.
Il fallait être patient, comme beaucoup ne l'ont pas.
Il avait fait des rentrées moyennes, contre Paris, entre autres. Mais Paris, avec Hakimi en face, ce n'est peut-être pas le match idéal pour débuter. Et là, il a fait... Après, il a eu un truc énorme, c'est qu'il a 2 grosses occasions en début de match. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il ne tremble pas. Il contrôle, il court avec le mec à 1 mètre derrière qui essaie de le rattraper. Il ne panique pas, il fixe le gardien, et il fait une frappe très précise. Les 2 buts, c'est ça. Et donc, il a montré qu'il était bon. Et
il ne rechigne pas à quelques efforts défensifs, de repli.
Et en début de deuxième mi-temps, c'est lui qui fait la passe décisive à Aubameyang pour le 4-0. Donc, il fait un très bon match. Et il est même impliqué dans le but de Greenwood, le 3e.
Également, c'est vrai.
Pas directement, parce qu'en fait, il fait un appel qui embarque un défenseur qui permet la passe.
Et ce jeu sans ballon est fondamental.
Sans ballon, effectivement. Comme
un match plein pour le Brésilien. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé sa prestation lors de cette rencontre face à l'Ajax.
De tout cœur.
Il nous reste une vingtaine de minutes, donc on va parler aussi un peu de championnat. Donc on va refermer cette page Ligue des Champions et juste rappeler pour nos auditeurs que l'OM, après 2 journées, donc, est 9e de cette phase régulière avec 3 points. Et le prochain rendez-vous, ce sera un déplacement au stade de José Alvalade de Lisbonne dans 2 semaines pour défier le Sporting. Voilà, le Sporting de Lisbonne.
Voilà, un déplacement évidemment qui sent la poudre, mais restons confiants dans la mesure où on peut l'être.
Le mercredi 22 octobre, et le Sporting, c'est pas un cadeau, c'est une grosse équipe.
C'est l'équipe championne du Portugal la saison dernière qui a devancé les cadors que sont le Benfica Lisbonne et le FC Porto.
Rien que ça.
C'est une belle équipe, ça sera pas un match commode, mais si on fait des matchs au niveau de ce qu'on a fait contre l'Ajax et à Madrid... On peut espérer un résultat tout à fait positif.
Avec cet état d'esprit et ce collectif, justement.
De toute façon, on a un tirage difficile.
Et on aura plaisir à revoir l'international colombien, Luis Suarez, qui a fait un passage éclair du côté de l'OM et qui n'a pas laissé des souvenirs impérissables pour les supporters marseillais.
On est bien d'accord, mais enfin, qui marque pas mal de buts.
Que ce soit aussi bien avec la sélection colombienne qu'avec le Sporting, il est très en jambes, notre ami.
Il n'était pas mauvais parce que moi je me rappelle quand il est arrivé, le premier match il avait mis 2 buts. Et il avait été.
Mais il avait fait que ça.
Un peu bourrin, c'est-à-dire il court.
Qu'il a eu une saison difficile du côté de l'Espagne la saison dernière, mais c'est vrai que là cette année avec le Sporting, il carbure à plein régime.
Il y a 2 ans, parce que la saison dernière il a été meilleur buteur de Ligue 2 espagnole.
Avec Almeria.
Avec Almeria, exactement. Et donc, Peut-être qu'il a été dans des clubs un peu hauts, que l'OM, et puis au début, il s'était un peu haut pour lui, et il s'est relancé, comme l'avant-centre de Strasbourg, qui marque pas mal.
Panichelli, le jeune argentin.
Très prolixe.
Voilà, qui était meilleur buteur la saison dernière, qui était meilleur buteur en Espagne aussi, qui était en Ligue 2.
Ouais, et du côté de Mirandès.
Voilà, c'est des joueurs.
Le championnat assez méconnu, le championnat de D2 espagnol.
Mais enfin, c'est...
Mais qui déniche de belles trouvailles et de beaux talents.
C'est-à-dire, tu te relances, tu prends confiance pour un buteur, c'est essentiel. Et là, le Luis Suarez, il plante. Voilà. Et du coup, il est sélectionné en équipe de Colombie, ce qui est pas rien. Et ma foi, il faudra s'en méfier.
Et on le reverra aussi pour la Coupe du Monde avec la sélection colombienne, puisque la sélection des Cafeteros sont qualifiés pour cette Coupe du Monde au Mexique, au Canada et aux États-Unis.
Comment nous sommes par l'opposition face aux Portugais.
Et là, ce match, le 25 octobre, donc, le 25
pour un rendez-vous du côté du Stade Bollart en championnat face au Racing Club de Lens. Bon, on va pas brûler les étapes.
Mais attention, parce que ce match au Sporting, il est important. Parce qu'après, tu reçois l'Atalanta.
Il y a l'Atalanta qui viendra au Vélodrome début novembre.
Tous les matchs suivants.
Donc ça va être compliqué.
Mais c'est vrai que réussir à bien négocier ce déplacement au Portugal pour les joueurs de Roberto De Zerbi, ça sera très, très important pour la suite de la compétition. Voilà, on va passer à la Ligue 1. Et rapidement, moi, je vais faire un petit tour des résultats de ce week-end. On jouait la 7e journée en Ligue 1, donc ça avait démarré avec vendredi le Paris FC qui a battu Lorient 2-0. Ensuite, Metz a été battu 3-0 par l'OM, on va y revenir. Brest et Nantes, match nul 0-0. Auxerre a été battu à domicile par Lens 2-1. Dimanche, Lyon a été défait à domicile face à Toulouse 2-1.
Un match fort agréable à suivre.
Le Havre et Rennes se sont neutralisés 2-2. Match nul également dans le derby de la Côte d'Azur entre l'AS Monaco et l'OGC Nice, 2-2. Match qui a peut-être scellé le sort de Adi Hütter, le coach autrichien, dont on dit qu'il est plus que jamais sur la sellette du côté de la principauté. Ouais. Voilà, on parle beaucoup de Edin Terzic, l'ancien coach du Borussia Dortmund, pour lui succéder. Et enfin, donc, Strasbourg a battu Angers 5-0 et match de clôture. Donc, Lille et le PSG se sont neutralisés 1-2 du côté du Stade Pierre-Mauroy, avec une équipe totalement remaniée pour les joueurs de Luis Enrique, avec énormément de blessures.
J'ai eu l'impression, puisque j'ai dit mince, je vais me coucher, je travaille demain, mais c'est la Youth League qui joue. Voilà. Mince alors, ah non.
On avait l'impression de voir le campus de...
Ah, c'est ça,
ouais. Ah oui, du PSG.
Ah, incroyable.
Avec le jeune Niantou, Ibrahim Mbaye... aussi
Mayoulou.
Seni Mayoulou aussi qui avait marqué notamment au stade de Montjuïc face au Barça en milieu de semaine.
Voilà, mais c'est une équipe, tu vois quand même qu'il leur manque des gros poids lourds, Dembélé, Doué, Barcola.
Et d'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas été sélectionnés là, durant cette trêve. Voilà, on sait qu'il y a João Neves qui a renoncé à la sélection portugaise. Didier Deschamps ne pourra pas compter sur Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola qui favorise le retour de Florian Thauvin. Oui. Donc, une sacrée catombe. Fabian Ruiz aussi qui n'a pas été sélectionné, lui qui revient. Bien sûr, voilà, après...
Et disons que ça montre que Paris, tu peux dire ce que tu veux, ils ont un sacré fond de jeu. Ce qui me surprend, c'est qu'ils aient pu gagner à Barcelone, mais je pense que les erreurs tactiques barcelonaises, qui font d'ailleurs polémique en Espagne, c'est-à-dire
on a vu que le Barça s'est incliné lourdement du côté d'Andalousie et face au FC Séville ce week-end.
Ils ont fait les mêmes erreurs.
Le FC Séville qui avait accroché l'Olympique de Marseille en début de saison lors d'un match de prépa au Vélodrome. Le FC Séville d'Alexis Sanchez et Mathias Almeida sur le banc des Andalous.
Et Alexis Sanchez qui a marqué d'ailleurs
le premier but sur penalty.
N'oublions pas sur notre championnat, donc finalement ce match-là, Paris Saint-Germain, Lille, Paris Saint-Germain, ben finalement, je regrette peut-être l'opposition lilloise que j'attendais. Ils avaient la possibilité de faire beaucoup mieux. Ils n'ont pas cherché le match.
Les Lillois qui ont obtenu une belle victoire en Europa League la pelouse du Stade Olympique face à la Roma de Gasperini jeudi soir.
Ils étaient capables de faire beaucoup mieux.
Je pense qu'ils ont joué jeudi soir à Rome. Et la Roma, c'est une belle équipe. Hein.
Mais après, il y avait eu beaucoup de changements de la part de Bruno Genesio sur ce match-là.
Il a fait tourner, mais le
notamment Chancel Mbemba qui avait démarré la rencontre, qui s'est retrouvé sur le banc.
Et qui n'a pas joué. Mais après, quand tu joues un match de... On l'a connu il y a 2 ans quand on jouait l'Europa League. Tu joues le jeudi soir à l'extérieur. Tu rentres de Rome vendredi matin.
Et
tu joues le week-end.
Tu as 48 heures pour préparer le match de championnat.
C'est
en
très léger.
C'est très difficile pour l'entraîneur de préparer une telle rencontre.
Ça explique peut-être pourquoi il a fait des changements tardifs. Pourquoi il a... Moi, tu regardes le match, tu dis « il joue le match nul ». Ils prennent pas de risque.
Moi, je voulais juste revenir sur ce match, ce qui fait que aujourd'hui, après cette journée, l'Olympique de Marseille est deuxième derrière le Paris Saint-Germain à un point. Voilà, dauphin du PSG avec les
Monaco et
les Parisiens 16 points et l'Olympique de Marseille deuxième avec 15 points.
Ben voilà, finalement,
après cette belle victoire,
implique justement ce classement à présent.
Et ça nous permet effectivement d'avoir rattrapé en partie notre début de championnat avec deux défaites et les deux premiers matchs à l'extérieur.
Parce que c'est quand même formidable, après ce début avec deux défaites.
C'est vrai qu'on n'en menait pas large après avoir perdu lors de la troisième journée du côté du Groupama Stadium face à l'Olympique Lyonnais. Mais on voit que ça nous remet totalement dans le jeu.
Avec une différence, c'est qu'entre-temps, il y a eu la fin du mercato.
On n'a pas la même équipe.
Voilà. Où le dernier jour, tu recrutes Pavard, Hagerd, Aurélie, le Danois irlandais.
Emerson.
Emerson Palmieri et Vermeeren.
Et Arthur Vermeeren.
Excusez du peu.
Tu recrutes les mecs le dernier jour. Et aujourd'hui, quand tu les vois jouer, tu vois le match de l'Ajax, tu dis on a bien fait de les prendre. Parce que c'est des sacrés joueurs de ballon. Et l'équipe, elle s'est bien remise. On fait des clean sheets, on prend peu de buts. On est
Dans tout ça, on oublie le départ d'Adrien Rabiot du côté de la Lombardie et de l'AC Milan.
Malheureusement, c'était certainement une nécessité. Moi, je demeure persuadé que c'est sa mère qui voulait partir, pas forcément lui. Mais qu'elle a tout fait pour que ça explose. Quand tu as ton agent qui insulte ton président, ton directeur sportif, ton entraîneur, qui les traîne dans la boue et qui met le feu.
Il est évident que l'ingérence maternelle y a joué.
Voilà,
ceci dit, on a su rebondir avec d'autres joueurs.
Oui.
Ils ne compensent pas un joueur, c'est-à-dire qu'ils composent une équipe qui nous fait non pas oublier Rabiot, mais fait comprendre que finalement, on s'en sort super bien.
On a su rebondir, on a su reconstruire un groupe parce que. Pour revenir au match de Metz.
Ouais.
Voilà. Ben justement, il nous reste une dizaine de minutes pour revenir sur cette victoire en Inter Messine, 3-0 pour les joueurs de Roberto De Zerbi.
Moi, si j'ai un reproche à faire, c'est qu'en première mi-temps, on a eu le ballon. On n'a jamais été en danger, mais on n'a pas été très dangereux. On a deux, trois actions à Gomez.
On rentre au vestiaire à 0-0. On voit que la différence a été réalisée en début de seconde période.
On peut parler de maladresse de début de jeu. Peut-être une frappe de Gomez qui malheureusement n'a pas abouti, c'est rien de le dire.
Mais après, tu as eu le ballon, mais tu as été assez neutre, quoi. Tu n'as pas créé des brèches.
Alors Patrick, tu veux parler évidemment de la profondeur qu'on recherchait peut-être avec
Robinho Vass à bas centre.
Justement, c'est vrai que la titularisation du jeune Robinho Vass qui avait fait déjà belle impression face à Strasbourg la semaine précédente. Et le fait d'avoir laissé sur le banc Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang. C'était quand même un choix de nouveau fort de la part du technicien italien de l'Olympique de Marseille.
Alors Aubameyang, n'oublions pas, il a 36 ans.
Ouais.
Donc il avait quand même beaucoup donné contre
l'Ajax. Il a joué énormément depuis le début de la saison.
Il a été très important à Strasbourg. Ouais. Où c'est lui qui fait basculer le match.
Tout à fait naturel comme raisonnement.
Donc il le met sur le banc. Guiri, je pense qu'il a voulu tester Vaz. Ouais. Avec le problème, c'est que Robinho Vaz.
Mais après, on parle quand même de joueurs qui vont être concernés par des matchs internationaux aussi, durant cette trêve, avec l'Algérie et le Gabon.
Voilà, mais disons que Guiri, en dehors de cela, c'est pas un joueur de profondeur, c'est un joueur qui sait jouer au football. Et là, on avait une densité énorme dans cette défense.
Après, on voit quand même que l'OM, lorsqu'on est opposé à des blocs bas, c'est plutôt difficile.
Compliqué. C'est là que le choix de Vaz, qui est un garçon alors, qui bouge beaucoup, mais dans ce cas, tu comprends pourquoi il ne met pas Aubameyang, qui est un joueur rapide, qui a besoin lui aussi. Parce que les Messins, ils jouaient à 25 mètres de leur but. Quoi. Et donc, il n'y avait pas. Et c'est vrai que la rentrée de Guiri, beaucoup plus technique, beaucoup plus joueur de remise, d'ailleurs, deux des trois buts viennent de là, les buts, celui d'Oreilly. Sur passe de Guiri, celui de Guiri sur une remise d'Oreilly.
Mais c'est vrai que pour Amine Guiri, l'international algérien, il a réussi à trouver l'ouverture 12 minutes après son entrée en jeu.
Il avait besoin de scorer. Ouais,
et ça le relance et ça le remet vraiment en confiance pour la suite de la saison.
On ne met pas en doute son implication naturelle.
Mais on sait que ces dernières semaines, ça a été un peu compliqué. Il y a eu pas mal de critiques qui ont été émises à son encontre.
C'est-à-dire qu'à Strasbourg, il rate deux occasions.
Là, c'est quand même un signal fort, de lui avoir préféré le jeune Robinho Vaz, 18 ans, à sa place.
Mais
dans la hiérarchie des attaquants, pour lui, ça doit être plutôt mal perçu.
Une excellente gestion humaine de la part de De Zerbi.
Oui,
vu le déroulement, en tout cas.
Parce que le mec,
ça lui a donné raison par rapport au choix.
Parce que Guiri, il est rentré, il avait faim. Hein.
Voilà.
Il avait faim.
On l'a vu dès les premiers ballons, dès les premiers touchés de les premières prises de balles.
Il a peut-être bénéficié, ça aussi c'est à mettre au crédit de l'entraîneur, du fait que Vaz, il a épuisé les mecs parce qu'il n'arrête pas de cavaler et de faire des appels.
C'est certain.
Dans le vide, mais il a fait des appels. Et l'autre, il est rentré. Et l'autre, techniquement, Guiri, on peut dire, c'est pas vraiment un avant-centre au sens Giroud, au sens Basse.
C'est pas le pur avant-centre.
Voilà, c'est pas le pur avant-centre.
Par
mais
contre,
c'est lui qui peut faire la différence techniquement.
Voilà, techniquement,
dans une surface,
qu'est-ce qu'il est fort, le mec.
Et d'ailleurs, on l'a vu, surtout la deuxième partie de saison l'an passé.
L'an passé. Oui. Et là, il a fait, avec Aurélie, ils se sont bien entendus, à toi, à moi. Et deux jolis buts.
Belle complicité sur ces deux buts.
Et alors, on menait quand même déjà.
C'est vrai que c'est une sacrée trouvaille, ce Matorailé, là.
Il était beaucoup plus offensif. C'est en même temps que ce qu'on lui a demandé, probablement. On lui avait demandé peut-être.
C'est une bonne pioche de la part de Mehdi Benassia et Pablo Longoria de l'avoir déniché à Brighton. Hein. Voilà, lui qui a joué en Écosse auparavant, du côté du Celtic.
C'est vrai, ça ne fait pas trop danois comme nom, mais garçon qui a du sang écossais.
Mais c'est un garçon qui est international danois aux côtés de Pierre-Emile Højbjerg, le capitaine de cette sélection.
D'ailleurs, il l'a dit,
quel milieu merveilleux,
que c'est Højbjerg qui lui a conseillé de venir à Marseille. Mais ça explique aussi, par rapport à certains trucs qu'on lit dans les réseaux sociaux à la noix, pourquoi ils n'ont pas d'option ? Parce que Brighton n'a pas voulu mettre une option. Parce qu'ils ont payé 30 millions.
Ils ne vont pas nous le faire en cadeau.
Ils ne vont pas nous en faire un cadeau. Et ils n'ont pas voulu, contrairement à Vermeeren, qui est prêté par le.
Mais après, j'ai vu qu'apparemment, il y avait une altercation avec le technicien allemand Fabian.
L'entraîneur de Brighton.
Lors de la dernière fois. Et puis bon, on sait que. Je crois qu'il a mal accepté sa non-titularisation face à Manchester City quelques semaines avant la clôture du mercato.
Ça a dû jouer, certainement.
C'est ça qui a peut-être précipité son départ. Vers Marseille de Brighton.
C'est en ça que de Zerbi et Benatia sont de bons dirigeants. Oui.
C'est-à-dire et de bons recruteurs, d'avoir le flair voilà. et le nez pour aller dénicher ce genre de joueurs.
On parlait il y a cet été,
présent, au moment,
lors du mercato, que l'OM était sur Hendrick, le Brésilien du Real,
ouais.
qui au Real joue pas et Xabi Alonso le fera pas jouer. Et donc.
Et d'ailleurs, il se met en danger par rapport au mondial. Il
se met en danger et son club lui demande de se laisser prêter. Ouais. Et le mec, il ne voulait pas. Et l'OM était sur le prêt.
Après, c'est vrai que le sélectionneur brésilien, Carlo Ancelotti, le connaît très bien. Il a eu sous ses ordres la saison dernière. Mais bon, c'est vrai qu'il ne joue pas du tout, ce garçon. Voilà. En plus, il est jeune.
Qu'il ne faut pas focaliser sur un joueur.
Oui,
avoir une panoplie de plusieurs joueurs.
Mais le truc,
justement.
Ce que je veux dire, c'est qu'Aurélie, c'est un mec qui, lui, il joue sa place à la Coupe du Monde aussi. Avec Lausanne Marque. Donc le garçon, il s'est engueulé avec son entraîneur, il a peut-être eu un clash un peu rude, il sait qu'il jouera peu ou pas, tu sautes sur l'occasion pour avoir un prêt. Si Brighton ne met pas d'option d'achat, c'est qu'ils se disent, suivez ce qu'il fait, on récupère, ça ne va pas être une plaisanterie de le récupérer éventuellement. Après, il faudra voir ce que veut le joueur et tout. Hein, c'est toujours important.
Oui,
mais en tout
facteurs,
cas, toi, tu t'es fait prêter un gars qui joue une qualif pour la Coupe du Monde.
Bien sûr, oui. Ben, en plus, là, j'ai sous les yeux les échéances. Ben, Matt O'Reilly et Pierre-Emile Højbjerg joueront avec le Danemark donc, durant cette trêve avec un match jeudi soir du côté de la Hongrie. Voilà, une rencontre délocalisée face à la Biélorussie. Et dimanche prochain, ce sera la réception de la Grèce du côté du Parken de Copenhague pour les deux internationaux danois de l'Olympique de Marseille.
Et s'ils font le plein 6 points, ils sont en Coupe du Monde. Ouais. Donc le mec, il a intérêt à jouer.
Un rendez-vous très très important là, sur cette trêve du mois d'octobre.
Et c'est une bonne chose d'avoir recruté des joueurs comme ça, parce que c'est les mecs qui se battent et qui ont faim, qui ont des choses à prouver.
Et d'ailleurs,
c'est
Pierre-Emile Højbjerg qui a le brassard de capitaine avec cette sélection danoise.
Et lui, évident, peut-être, il a senti le coup, il a dit « Oh, il y a un truc à voir, voilà, le mec ». Parce que le mec, il me plaît bien. Il a montré à Metz que techniquement, il n'est pas maladroit. Dans son jeu en triangle, c'est 1-2 avec Wiri sur les deuxièmes. Le deuxième, c'est lui qui le met. Passe de Wiri. Le troisième, c'est.
Mais c'est une action bien construite.
Voilà, très bien construite. Et il a montré contre l'Ajax ou contre Paris, Saint-Germain, que quand il fallait mettre le bleu de chauffe et combattre et harceler pour ratisser les ballons, mais il y était.
C'est ça d'après aux situations.
En tout cas, ça justifie la confiance placée en lui de la part de Roberto De Zerbi.
C'est légitime. Maintenant, j'espère qu'en équipe nationale, il se fera. Voilà, disons pas des choses pareilles, qui restera en bonne santé, qui n'aura pas de pépins physiques.
On espère qu'il n'y aura pas trop de casse durant cette trêve internationale, parce que c'est vrai, comme tu le rappelais, Patrick, il n'y aura pas de sélection pour Benjamin Pavard, mais il y a quand même pas mal de joueurs qui partent et assez loin. Donc, je vais rappeler pour nos auditeurs, il y a deux petits matchs amicaux du côté des États-Unis pour Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli. Voilà, un face au Venezuela du côté de Miami, un autre à Chicago face à Porto Rico. Ensuite, il y aura Amin Guiri qui jouera à Oran jeudi face à la Somalie. Et ensuite, mardi prochain, toujours en Algérie, à Tizi Ouzou face à l'Ouganda. Ouais. Match de qualification pour la Coupe du Monde.
Voilà, des terrains un peu piégeux peut-être.
Pour Naïef Aguerd, il y a deux rendez-vous dans la magnifique enceinte de Rabat avec la sélection marocaine. Un amical face à Bahreïn qui est prévu jeudi soir. Et un autre pour les qualifications pour la Coupe du Monde face au Congo. Le Congo de Chancel Mbemba qui est prévu mardi prochain, le 14 à 21h.
Espérons qu'on ne le mettra pas le match amical contre Bahreïn, ce qui permettra de souffler un peu.
Oui. Ouais.
Mais bon, je pense qu'il y a dû déjà avoir des accords entre Walid Regragui et Roberto De Zerbi et l'ensemble du staff.
Parce que tu as Weah qui s'en va aux États-Unis avec l'équipe des États-Unis. Voilà. Tu as Murillo qui part jouer avec le Panama Panama et l'Amérique latine.
Ouais. Après, c'est vrai que pour Timothy Weah, il y a cette sélection avec la Team USA de Mauricio Pochettino, avec deux matchs amicaux face à l'Équateur à Austin et un autre à Commerce City face à l'Australie.
Donc ça fait des voyages quand même.
C'est quand même très long, voilà.
Au-delà des matchs, ouais.
Alors, on scrutera un petit peu l'état de forme des uns et des autres à l'aube de la réception du Havre qui est prévue le samedi 18
et
à 21h05.
Nous avons beaucoup d'internationaux.
Voilà, surtout dans la perspective de la suite avec ce déplacement à Lisbonne 4 jours après et le déplacement à Lens.
Il ne faudrait pas être surpris que contre le Havre, qui est une équipe qui va se battre pour le maintien. Alors attention, méfions-nous des équipes. Le Havre, ça joue.
Il n'y a pas de petit match.
Voilà, c'est pas une équipe. Faut faire attention.
On sait qu'il y a quand même une grosse déception de la part des joueurs d'Abibay, mais c'est vrai que cette équipe de Didier Digard, elle reste sur un match nul face au Stade Rennais ce week-end.
Ah oui.
Deux buts partout, donc.
C'est et puis ils égalisent à la
90. Certains médias ont pris l'habitude de jeter la pierre aux coachs qui ont quelques soucis dans leurs résultats.
C'est vrai que sur cette prochaine journée de Ligue 1, il va falloir se méfier de cette équipe havraise qui viendra au Vélodrome 4 jours avant ce match de Ligue des Champions. Voilà. Surtout, ne faisons pas l'erreur de jouer le match de Lisbonne et du Sporting avant cette rencontre importante en Ligue 1 pour maintenir le cap derrière le Paris Saint-Germain.
J'ai confiance, c'est fois en cet effectif cet encadrement.
Là où on peut des fois être critique sur les médias, parce que maintenant, c'est beaucoup dans le clash, dans l'événementiel, on dirait Cyril Hanouna qui parle de football, quoi. Voilà, non, mais on est dans les trucs un peu graveleux, un peu
on est rentré à l'ère des réseaux sociaux.
Voilà.
Qu'est-ce qui fait
moi, je suis admiratif devant le travail de certains entraîneurs, dont Didier Digard au Havre, ou des mecs comme du jeu à Angers, comme Pélissier à Auxerre. Parce que les mecs, tu vois, les équipes qu'ils ont, il n'y a pas grand-chose. Ils n'ont pas recruté pour une centime.
Il est difficile de garder son flegme quand tu es dans la position.
Après, c'est vrai qu'avec cette crise des droits TV, c'était difficile pour eux de pouvoir faire réaliser un mercato.
Ils ont un mercato sans autorisation de recrutement onéreux. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas acheter. Ils ont dû vendre 2-3 petits joueurs pour faire 3 bouts de ficelle pour combler le budget. Et malgré tout, ils arrivent à avoir des équipes qui tiennent la route.
Et en plus, s'ils ont des soucis, ils n'ont pas de chance sur certains matchs, comme Auxerre face à Lens. Quoi.
Mais c'est vrai que cette équipe havraise, avant de venir au Vélodrome, elle occupe la 14e place avec 6 points au niveau du classement. Aujourd'hui, quand on regarde ce classement de Ligue 1, on s'aperçoit que les Normands se retrouvent... presque aux portes de la relégation.
Oui, mais
ça va très vite.
Le truc qu'il y a, c'est que, à mon avis, il va y avoir un championnat à 4 ou 5 pour la descente. Il y a Metz, il y a Lorient, il y a Angers, il y a Le Havre.
Metz qui a joué contre l'Olympique de Marseille ce week-end et Angers qui viendra au Vélodrome à la fin du mois d'octobre, le 29.
Mois d'octobre. Mais c'est les équipes, quand tu regardes les effectifs, tu te dis c'est un Ligue 1, ça. Voilà. Et à la limite, Metz.
C'est les équipes ascenseurs.
Ils ont vendu un ou deux joueurs et leur équipe de Ligue 2 l'année dernière, elle était du même niveau que cette année parce qu'ils ont pratiquement.
Ils ont
récupéré Habib Diallo. Qui était un joueur qui avait été chez eux, qui avait marqué beaucoup de buts.
Qui était du côté de Strasbourg aussi.
Et qui était parti en Arabie Saoudite.
Voilà, qui a fait un bref passage dans le golf en Arabie.
C'est un bon buteur.
Oui, mais ça suffira pas à
leur équipe est quand même bien. Il y a Gauthier Hein,
qui est
bon.
Qui avait fait une belle saison sous les couleurs de la JA.
Mais si tu enlèves ça, on l'a vu contre nous. Je dis pas que tu aurais pu jouer avec un cadet à la place de Rouli dans les buts parce qu'il a une arrêt à faire dans le match.
Il est intervenu quand il l'a fallu.
Voilà,
on parle d'une équipe promue en Ligue 1
qui est en Ligue 2 et qui a une grosse difficulté. Si je disais
d'ailleurs le FC Metz qui enregistre 2 points pour le début depuis le début de la saison, qui n'a gagné aucune rencontre.
Il a fait 2 matchs nuls à la maison.
Deux points avec 2 matchs nuls.
C'est une équipe courageuse avec quelques joueurs qui sont pas mauvais, mais qui le groupe manque d'expérience. Par contre. C'est des équipes qui savent qu'ils vont se battre toute l'année, comme le Havre.
C'est des équipes qui sont formatées pour jouer le maintien jusqu'au bout.
Si tu leur donnes un os à ronger, accroche-toi, parce que les mecs, ils vont se battre. Et puis, ils lâchent rien. Le Havre, ils étaient menés 2-1, ils sont allés contre Rennes. se sont arrachés. Ils ont
mais ça, je pense que l'entraîneur, l'entraîneur Stéphane Lemignan du côté de Metz et le président Bernard Sourin en étaient totalement conscients en début de saison.
Sans l'être vraiment de Sourin.
D'ailleurs, Lemignan, dans un compte rendu d'après-match, je regardais donc sur le à la télé sur Ligue 1,
sur la chaîne Ligue 1 Plus.
Voilà. Il a été interrogé, il a dit fait pas le même championnat que l'OM. Voilà. Et quand ils se sont mis en route en deuxième mi-temps, ils se sont mis voilà.
C'est vrai que bon, c'était presque inespéré de rentrer au vestiaire à la pause à 0-0.
Mais nous, ce qu'il faut tirer comme leçon,
travail préparatoire pour la suite.
Je le redis, c'est que première mi-temps, tu as 2-3 occasions. Et tu les mets pas.
Mais c'est là où on doit faire la différence, voilà. Justement. Ouais.
Heureusement que notre défense, elle est costaud, parce que c'est là que tu vois Pavard à guerre, c'est costaud.
Ben hein. Oui.
Parce que tu n'as jamais été en danger, mais si jamais tu prends un but à la noix, ça peut toujours arriver.
Ah, bien sûr.
Ça peut toujours arriver, un but à la courbe.
On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise.
Oui, un tir contré, une balle, un ballon qui. Je ne sais plus quelle équipe, ils ont pris un péno. Il y a une action,
Ça peut changer totalement la physionomie.
Voilà, le ballon, il fait du flipper, il vient sur le bras du défenseur penalty. Enfin, voilà.
Ah ouais,
ça peut t'arriver.
Malheureux qui arrive aussi.
Tu peux lâcher des points, quoi. Tu peux lâcher des points dans les matchs comme ça, alors que franchement, il n'y avait pas photo. Tu étais largement super.
Ben oui, quand on voit le classement, cette équipe de Metz qui est lanterne rouge et dernière de ce championnat
de
Ligue 1.
Après, il faut voir les matchs et les réalisations.
Oui, ouais. Non, mais c'est vrai que dans le contenu, elle nous a montré très peu de choses depuis le début. Donc, c'était quand même un match largement à la portée de l'Olympique de Marseille.
Mais
je pense que le fait d'avoir vu les Olympiens réussir à faire la différence en seconde période et marquer 3 buts, c'était totalement logique.
C'est ça, tout un travail préparatoire, j'en reviens là également. Voilà.
Même si c'est vrai que la première période a été plutôt compliquée pour les joueurs de Dezerbi.
Ouais, parce qu'on n'a pas su concrétiser, on le répète, les deux occasions d'entrée de jeu, quoi.
C'est le manque de réussite qui fait que justement tu te compliques la tâche et ça devient difficile.
C'est là d'ailleurs, enfin, on en parlait match contre l'Ajax et on discutait avec les collègues.
Rapidement, puisqu'il ne nous reste plus que quelques minutes.
Entre vieux, on se disait où est l'époque de Franck Sauzet qui t'envoyait des missiles de 30 mètres. On ne tire plus. On a peu, alors qu'on a quand même des beaux tireurs entre Hoiberg, Greenwood et tout.
On a quand même des joueurs qui ont des sacrées frappes de balles.
Alors,
mais bon, malheureusement,
à Metz,
on se prive de
barres. Hein, on prend deux barres aussi. Ouais. Hein,
on est doté de joueurs capables de cela. Ouais,
deux poteaux.
La preuve, la preuve.
Mais Gold battu, il prend les poteaux. Mais il faut frapper.
Mais là, on a quand même vu Géronimo Roulier être très, très peu sollicité.
Il a un arrêt dans le match.
Mais toujours vigilant.
Voilà, toujours vigilant. Il a un arrêt, mais
plutôt sûr et serein, le gardien argentin.
Il faut qu'on arrive, et c'est pour ça que je le disais, c'est tout bête, mais contre l'Ajax, tu marques d'entrée sur tes premières actions, après tout devient facile. L'autre est obligé d'attaquer pour revenir, et les mecs, ils ne vont pas rester derrière, tu vois. Donc, ils sont obligés de sortir, toi, tu les prends en contre. Et alors que quand tu as un bloc, un hérisson qui est... Parce que Metz, ils jouaient chez eux, ils jouaient à 25 mètres de leur ligne.
Oui,
quoi.
Oui.
Voilà.
Et totalement différemment que face à l'Ajax.
Oui,
c'est
oui,
pas la même opposition.
Pas du tout la même opposition. Ouais, ouais.
C'est vrai que face à l'Ajax, le fait d'avoir marqué 3 buts en moins d'une demi-heure, ça a facilité considérablement la tâche pour nos Olympiens.
À la 20e, tu as 2-0. Les autres, ils ont attaqué. Je reconnais les reproches, on disait Snyder tout à l'heure, mais c'est sûr qu'ils sont partis.
C'est vrai qu'avec le troisième but de Mason Greenwood, juste avant la demi-heure, la 26e, le match est plié et la messe est dite.
Ça a été la stockade.
Et après, même le quatrième, le but de
Aubameyang,
c'est un contre. Tu pars d'un corner, je crois, c'est pour l'Ajax, je crois que c'est un corner. C'est sur le où c'est un ballon récupéré sur le cône, c'est Vermoren d'ailleurs qui récupère.
On en revient à sa vista. Et
voilà,
sa
il décale Pechao qui dribble, qui voit Aubameyang qui se démarque très très bien d'ailleurs en faisant un appel contre appel et il lâche son défenseur, il lui met la balle et l'autre il aligne le gardien. C'est un but en contre.
C'est un régal rien que d'en parler.
Si tu mènes pas au score, les autres ils y vont pas quoi.
Voilà. Eh bien, c'est sur cette dernière analyse de la part de Patrick qu'on va se quitter. Voilà, on remercie tous nos auditeurs et on vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine.
Et oui.
Voilà, donc trêve internationale oblige. Donc voilà, on se retrouvera après la trêve on débattra autour de l'Olympique de Marseille. On reviendra notamment sur ce match face au Havre qui est prévu le 18 à 21h05. Et on parlera aussi de la Champions League. Voilà, tout un programme. On reviendra sur, comme vous en avez l'habitude, les féminines, Aubagne, Herbel. Voilà, un programme copieux, comme d'habitude. Voilà, on se quitte et on vous souhaite une bonne fin d'après-midi sur les ondes de Fréquence Mistral. Et à dans 15 jours. Allez,
à très bientôt. Au revoir.